Georgina Ramos, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été longtemps danseuse, maître de ballet, chorégraphe à Cuba.
Oui.
Donc c'est une expérience qui date de quelle période ?
Date, comme danseuse, tu es professionnelle, ça date à partir de 1977. Mm-hmm. Que j'ai fini mes études à l'École nationale d'art à La Havane. Et je rentre à la compagnie des Ballets Nationaux de Cuba avec Alice Alonso. Que j'ai fait toute ma carrière comme professionnelle. Et en même temps, je m'ai préparée comme professeur titulaire. Ça veut dire, c'est pas seulement à Cuba, il y a deux titres de professeur. Un, comme professeur, comme ici, c'est l'équivalent d'un diplôme d'État. Et après, c'est une autre qu'on passe. C'est un équivalent des études universitaires, parce qu'on fait l'Institut supérieur des Beaux-Arts. Et normalement, ça, c'est 5 ans d'études à l'université. Je le fais en même temps, à la fin de ma carrière, quand j'ai décidé un petit peu de m'arrêter comme danseuse. J'ai décidé aussi de me préparer comme professeur. Mmh. Et j'ai passé ces 5 ans d'études à l'École supérieure des Beaux-Arts. Et quand j'ai fini l'Institut supérieur des Beaux-Arts, j'ai eu des contrats. J'ai enseigné aussi dans des stages internationaux qui s'est fait à Cuba, qui venaient de tout le monde, surtout de l'Amérique. Beaucoup d'élèves américains, brésiliens, mexicains, et de l'Europe, un petit peu, c'était plus de l'Espagne, d'Angleterre. Et de la France.
Là, on était en quelle année ?
Ça, c'était... j'ai fini l'Institut des Beaux-Arts, c'était en 1994.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'environnement culturel en 1994 de Cuba ?
À Cuba, il y a... par exemple, nous, le ballet national, comme spectacle, à Cuba, il y a beaucoup de spectacles. Normalement, la compagnie, comme c'était une grande compagnie, on avait quelquefois la compagnie, on s'est présenté même à La Havane. Une autre groupe, on était dans une autre région. Et une autre groupe qui pourrait aussi être dans une tournée internationale, soit en Amérique ou en Europe. C'était une grande compagnie qui avait à peu près 130 et 150 danseurs. Mmh. Et à peu près une dizaine de mètres de ballet, une grande compagnie. Et à Cuba, on avait toujours des spectacles. Tous les théâtres, on avait presque tout, on a dansé presque toutes les semaines. Mmh. Le répertoire qu'on a dansé, c'était un répertoire très ouvert. Pas seulement dans les styles classiques, sinon on a dansé dans des différents styles aussi, et des chorégraphes américains, ainsi que des chorégraphes cubains. Il n'y avait pas seulement le ballet national de Cuba. À Cuba, il y a danse contemporaine, il y a un groupe qui est le Conjunto Folclórico Nacional, une autre compagnie qui est le Ballet de Camagüey, qui est une autre compagnie qui est en région, qui dirigeait Fernando Alonso. Mm-hmm. C'était l'ex-mari de Alice Alonso. Après son divorce, il a pris la direction de cette deuxième compagnie qui est plus à l'Orient de Cuba. Il y avait aussi des autres petites compagnies de danse contemporaine.
Mais les chorégraphes étaient souvent dans des ambiances qui dépassaient la danse avec d'autres artistes, d'autres disciplines.
Ah oui, on avait de faire des spectacles ensemble avec des musiciens. Il y a une grande école de musique à Cuba, des peintures, théâtre. Et on a eu aussi beaucoup de ces spectacles ensemble avec toutes les manifestations artistiques. Soit nous, les danseurs, on a fait une partie, l'autre c'était des musiciens. Donc c'était des spectacles un petit peu à plein air, parce que c'était pour montrer justement au peuple, pour cultiver tous les publics. On a fait des spectacles avec toute cette manifestation ensemble. Mm-hmm. Et on a fait aussi des tournées par tous les pays, avec des chanteurs d'opéra, nous les danseurs. Et on s'est présenté dans des petits villages, à la montagne, pour faire des spectacles pour des gens qui c'était pas possible de venir à La Havane, pour voir dans des grands théâtres, des parties de Le Lac des Cygnes, ou des Giselles, ou Coppelia, ou même des opéras comme Aïda, La Traviata. Donc on a fait un petit peu des programmes concerts, c'était des spectacles ouverts à tout le public.
Donc l'accueil dans ces villages par rapport à la ville qui était peut-être plus habituée à voir des spectacles.
Et sais-tu comment ça, une autre public? Parce que bon, pour moi, il y avait les mêmes valeurs que dans une public qui c'était des paysans qui même qui regardent un spectacle même assis sur un tabouret et nous on est à plein air, qui est pareil que dans un grand théâtre. Pour moi, les deux sont pareils. Et pas seulement pour moi, sinon pour nous, pour tous les danseurs de la compagnie. On a dansé avec les mêmes rigueurs que dans un grand théâtre d'ici en Europe, qu'en Amérique, même qu'à La Havane. Parce que une chose qui ça m'a touché beaucoup, de voir comment les paysans, ils sont un autre regard. Ils sont beaucoup. C'est un regard beaucoup plus pur. C'est un public qui, comme ils ne connaissent pas, il va te dire s'il aime ou s'il n'aime pas. Et en général, on était très 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 bien accueillis pour cette public. Même quelquefois, on avait peur, parce que danser les Lacs des Cygnes dans une petite village, dans une petite. Qui sont des paysans qui même qui s'étaient presque analphabètes, mais pas complètement, mais qui c'est des gens qui jamais ils ont écouté des musiques classiques ou qui n'avaient pas une culture, n'avaient pas de culture. Et par contre, on avait un petit peu, comme je vous avais dit avant, un petit peu peur parce que comment ces gens vont à voir les Lacs des Cygnes avec des tutus qui c'était un petit peu bizarre. Ou même de danser une danse, une chorégraphie de Martha Graham, ou une chorégraphie de Balanchine, comment ce public va réagir, justement. Mmh. Et par contre, c'était toujours très, très, très bien. J'ai des très, très bons souvenirs dans ma carrière comme artiste-interprète, de danser pour des publics. Des publics qui n'étaient pas dans un théâtre. On n'avait pas vraiment, pour nous c'était très difficile parce qu'on n'avait pas les conditions, comme un théâtre, que tu as un bon plateau, qu'il est bien. Non, ça c'était presque sur des carrelages, ou sur une petite.
Estrade.
Et on n'avait même pas des loges, on s'est changé même avec de petits rideaux qu'on a inventés. Et en tout cas, pour moi, ça m'a porté beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie. Voilà. Au début, on était un petit peu danser dans des endroits comme ça, c'était un petit peu dur. Mais j'appréciais beaucoup. J'appréciais beaucoup parce que. On voit que la culture, c'est quand les choses se font bien et avec beaucoup d'amour, c'est tout le monde peut peut, comment dire, ça peut offrir, goûter, c'est comme quelque chose qu'on mange, de les donner quelque chose aussi à goûter avec des bons goûts.
Donc la danse est à Cuba à ce moment-là un art populaire.
Très populaire. Et ça continue très populaire à Cuba. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup plus d'écoles de danse qu'en 1994. Il y a beaucoup plus. C'est vrai que la situation économique à Cuba, c'est dur, c'est difficile. Mais les Cubains adorent danser. Et on voit maintenant, il y a des danseurs partout, des Cubains, malgré aussi la situation économique, que ça aussi, il y a beaucoup d'artistes qui sont quittés le pays pour des différentes raisons, soit politiques ou économiques. Mais en tout cas, Cuba, c'est un pays des musiciens et des danseurs.
D'artistes ?
En général, ouais, d'artistes.
Est-ce que l'artiste a un statut particulier à Cuba ?
Oui, oui. On a un statut un petit peu particulier. Bon, à mon époque, on était vraiment gâtés. Je peux dire gâtés parce que on a eu. Quand je fais mes études à l'école, c'est vrai que pour rentrer à l'école, il faut avoir des possibilités. C'était à des enfants qui étaient doués. C'est pas parce que moi je vais faire la danse, parce que j'aime bien, j'ai de l'argent. Non. Chez nous, il faut. Si tu étais choisi, c'est parce que toi, tu avais les possibilités pour devenir une danseuse professionnelle. Et on a eu tout. Tout pour devenir des bons danseurs. Avec des très bons professeurs, pas seulement des professeurs cubains, sinon des professeurs qui sont venus de l'étranger pour nous former. Et tout était payé. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Mais maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce qu'à Cuba, il y a un petit peu moins de. Après la rupture avec l'Union, ex-Union soviétique, toute cette grande aide qui apporte. Parce que Cuba, c'était vraiment soutenu
oui.
Pour l'Union soviétique. Mm-hmm. Nous, on avait tout le matériel, surtout pour les danseuses, des pointes, des collants, juste corps. Et c'était des choses qui venaient de Moscou, du théâtre Bolchoï. Et après ça, on a eu beaucoup de pénuries, justement pour avoir des pointes. Surtout pour les garçons, pour avoir des demi-pointes, des collants. Donc maintenant, à Cuba, on peut voir peut-être une fille qui va danser avec une pointe au pied, avec une capesio, et l'autre pied, peut-être ça sera une pointe chaco, une autre marque, deux marques différentes, parce que, voilà, il y a une qui, quand c'est casse, il faut la réparer. Mais la vie continue, ça ne s'arrête pas, on continue à danser, même s'il n'a rien.
Est-ce qu'à Cuba, il existe des lieux comme l'Opéra Garnier ou
oui.
D'autres
oui. Oui, c'est la compagnie que j'ai dansée.
C'est un opéra.
C'est une opéra. Mm-hmm. C'est Opéra Ballet. Mm-hmm. Et c'est dans un grand bâtiment qui est au centre de la ville de La Havane, au Parc Central. Et c'est un bâtiment de. C'est un théâtre, et ce théâtre, il a aussi accueilli Anna Pavlova qui a dansé dans ce théâtre. C'est un théâtre historique à Cuba. Fanny Eisler qui a dansé aussi dans ce théâtre. Dans ce théâtre à La Havane aussi, c'est dansé La fille mal gardée, même avant de se danser à Paris, parce qu'il y avait déjà beaucoup de danseuses de la période romantique ici en France, qui sont commencées à venir en Amérique. Et comme il avait beaucoup d'argent en Amérique, et les publics, il avait toujours cet regard à la France comme la vitrine de la culture. Donc il y a eu beaucoup de grands, grands danseuses et chorégraphes au début c'était 1800, 1900, tous les siècles 19e.
Oui, début du 20e.
Et 20e. C'était très, très... beaucoup des danseuses et même des compositeurs, des musiciens qui sont passés pour tous les grands scénarios à Cuba.
Alors, c'est vrai que beaucoup de chorégraphes et de danseurs français sont partis aux États-Unis parce qu'il y a eu la guerre 39-45. Oui. Est-ce que Cuba a profité de ce mouvement ?
Oui, on a profité beaucoup, bien sûr. Même Alicia Alonso, la directrice de la compagnie, qu'elle est encore directrice, elle a fait toute sa formation, une grande partie. Et le feu s'était uni à New York, donc il a travaillé directement avec Michel Fokine. C'était une des danseuses, des muses de Balanchine. Et Balanchine a créé pour elle Thème et Variation. Il a dansé aussi avec Gerald Robbins, Anis de Miller. Donc nous, quand on a travaillé une chorégraphie de tous ces grands chorégraphes qui étaient des chorégraphes et des danseurs de les ballets russes, de Diaghilev, et des danseurs de l'opéra et des professeurs d'ici de France qui sont partis aux États-Unis. Alicia, il s'est nourri beaucoup de tous ces chorégraphes et on a eu directement la transmission de la source presque directe, nous, parce qu'Alicia, comme il a travaillé directement avec tous ces chorégraphes, quand il nous a monté la chorégraphie, on a remonté les pièces. C'était transmis direct, c'est pas que quelqu'un qui a entendu ou qui c'était une transmission des uns à l'autre tout de suite, donc il n'y avait pas deux générations. On a eu beaucoup de même des chorégraphes américains parce que comme Alicia, comme il a travaillé aux États-Unis, comme Anton Dolin, Igor Juskevich, Cynthia Harper, Cynthia Gregory, et des danseuses ici de la France qui sont venues à travailler avec nous, comme Attilio Lavis, Cyril Atanasoff, Noëlla Pontois, et des autres danseuses de la nouvelle génération qui vont à Cuba de temps en temps pour le festival international qui se font à La Havane. Donc on était toujours entourés des grands danseurs à Cuba qui sont invités pour Alicia pour danser à la compagnie.
Donc à un certain moment, Cuba devait être la vitrine artistique du communisme.
Oui, exactement. C'était un petit peu comme pareil à Cuba, comme les sports. C'est un petit peu la vitrine. Mm-hmm. Je pense que c'est une partie aussi de la publicité du gouvernement, d'avoir toujours une vitrine à montrer que nous, à Cuba, on avait Fidel Castro. En même temps, il a vu qu'Alicia Alonso, qui était une grande danseuse à l'époque, 1900, quand Fidel Castro il a pris le pouvoir en 1959. Alicia Alonso, qu'il a voulu créer une compagnie, parce que c'était toujours son rêve de créer une compagnie à Cuba, et que Fidel Castro lui donne tous les moyens pour faire une compagnie. Donc, en même temps, pour lui, c'était bien d'avoir une grande étoile, de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui peut vraiment créer une compagnie à un niveau international. Et dans les sports, c'est un petit peu pareil. On voit tous les Cubains on a toujours des bons records internationaux. Donc Cuba, c'est la vitrine aussi au niveau surtout de la culture en général, parce qu'il y en a beaucoup de musiciens aussi, pas seulement des musiciens qui vont jouer des salsa, ou qui vont, il y a aussi des grands interprètes, des pianistes, des pianos, des violons, des guitares, il y a aussi des très bons, des nouveaux des compositeurs aussi, qui sont comme Leo Brouwer, qui sont reconnus internationalement.
Non, cette période 1980, pour la danse, c'était un bon moment pour vous, au niveau des moyens que vous aviez. Ça oui. A certainement entraîné beaucoup d'émulation de gens qui avaient envie de pratiquer la danse. Qu'est-ce qu'il en reste maintenant de cet engouement ?
Et bon, ça, ça continue cette émulation toujours à Cuba. Hein. Mais il y a des moins à moins des moyens pour avoir des conditions, des possibilités, des bâtiments qui sont bien pour faire la danse. Mais par contre, je veux dire une chose, l'école du ballet, l'école des classiques, l'école des danses classiques, ils sont bien d'avoir un super bâtiment, un vieux bâtiment de les années 20 qui sont tout réparés. C'est un palais des 1920. Et maintenant, il y a des studios super. C'est vrai que pour entrer à l'école, ce sont des enfants qui sont hyper doués. Et c'est pas n'importe qui peut rentrer à l'école. Même si c'est gratuit, il faut avoir beaucoup de possibilités pour entrer dans l'école. Et en même temps, à Cuba, c'est le seul moyen aussi, je peux dire, qu'à travers la culture, que nous, on peut aussi sortir d'aller ailleurs et de voyager, d'échanger notre et d'avoir une autre vie complètement différente.
Alors, effectivement, on peut rappeler qu'actuellement encore, il y a l'embargo des États-Unis sur Cuba.
Mais moi, je pense, oui, il y a l'embargo, mais je ne peux pas dire que ce soit un embargo à 100%. Bien sûr qu'il y a des choses qui manquent, mais on trouve des choses qui, par exemple, c'est... surtout c'est sur les médicaments, sur des choses, médicaments, des nourritures, mais il y a des autres choses qu'à Cuba, on peut, si vous avez les dollars, vous pouvez l'acheter. Mm-hmm. Mais si vous n'avez pas de dollars, ou la nouvelle monnaie, c'est une nouvelle monnaie qui existe à Cuba, vous ne pouvez pas l'acheter, mais si vous l'avez, oui.
Est-ce que cet embargo économique, on va dire, d'une manière générale, et politique certainement, a eu des effets aussi sur les échanges artistiques entre Cuba et les différents pays du monde, notamment la France ?
À quelque part, oui. Ouais. À quelque part, oui, parce que, par exemple, nous, on avait des tournées qui s'étaient prévues pour aller aux États-Unis, et à cause de l'embargo ou des problèmes, on n'a pas fait justement des tournées parce que c'était une négation des visas pour aller aux États-Unis, surtout aux États-Unis. Dans des mm-hmm. autres pays, on n'a pas eu de problèmes.
Est-ce que les liens entre l'ambassade de France, par exemple, et Cuba existent encore ? Et d'un point de vue artistique, arrive à mettre en place des partenariats ?
Je ne peux pas le dire maintenant, parce que moi, ça fait déjà quelques années que moi, je n'ai plus retourné à Cuba. Donc, il y a des choses que moi, je ne peux pas. Peut-être que ça existe, je ne sais pas.
Alors, justement, un certain nombre de compagnies, de chorégraphes, de danseurs sont sortis de Cuba pour exister professionnellement dans d'autres pays.
Ah oui, ça, là, ça existe, donc, il y a des danseuses.
Cette diaspora, un petit peu, où on la retrouve ?
On retrouve cette diaspora plus aux États-Unis, un petit peu en Espagne, en France, mais pas beaucoup, non.
Et est-ce qu'il y a une influence de ces chorégraphes sur la danse dans le pays dans lequel ils sont ?
Ils sont plus reconnus, plus comme interprètes, mais pas comme chorégraphes. Mm-hmm. Non, ce sont des interprètes.
Ça ne dure qu'un temps, interprète.
Ouais, ouais. C'est court, la vie d'un danseur. Mm-hmm. Il y a 40 ans, c'est fini. Et moi, c'est à Cuba, de Cuba, oui, il y a des professeurs qui viennent, qui sont invités à l'Opéra de Paris et à l'école, comme Eloy Paraujo, qui est invité à l'Opéra. même Alice Alonso, pour monter quelquefois des versions de la version de Gisèle. Par exemple, c'était Alicia, il est venu à l'opéra, il a monté sa version de Gisèle en entier. Et pareil pour des autres ballets, comme on avait Le Voix dormant, l'opéra de Paris, il a pris la version d'Alicia, pareil comme au Pas de Quatre, une chorégraphie romantique de 1845. À Londres aussi. Et maintenant, ça commence à s'ouvrir un petit peu aux États-Unis. Parce que la compagnie, ça fait 2 ans, je sais qu'ils étaient invités aux États-Unis. Ils ont fait une tournée aux États-Unis.
Est-ce que la danse classique française est davantage préservée à Cuba qu'à Paris?
Ah oui, oui. Il y en a beaucoup de respect pour conserver tous ces ballets qui sont des patrimoines. Tous les grands ballets, ils sont dans le répertoire de la compagnie. Comme Gisèle, Les Lacs des Cygnes, Don Quichotte, Castanacette, La Bajadère, tous les grands ballets.
Donc on peut dire que la danse traditionnelle classique française est davantage présente et préservée à l'extérieur de la France?
Oui, il est très préservé. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit préserver tout le temps. En plus, à Cuba, il y a une autre chose qui est... Déjà, les studios sont toujours ouverts. On n'a pas des portes qui se ferment pour la danse. Il y a des grandes fenêtres, et voilà, des grandes portes qui sont toujours ouvertes. En plus, quand on fait chaud, on voit les enfants qui passent dans la rue et qui regardent toujours par la fenêtre. Donc, il y a toujours une transmission des enfants et des publics qui viennent, qui sont dehors et qui regardent. Ils ont beaucoup de respect pour la danse à Cuba. Les gens, ils ont notre regard sur nous. Beaucoup de respect surtout.
Donc, Georgina Ramos, Cuba vit peut-être en ce moment une période un petit peu d'attente, de transition, on ne sait pas vers quoi. Est-ce que vous pensez que la danse à Cuba et le rayonnement de cette danse va se développer, va prendre un nouveau sens?
Bon, comme je vous avais dit un petit peu avant, moi ça fait quelques années que bon, je ne retourne plus à Cuba. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va arriver après quant à Alicia Alonso, parce qu'un jour elle ne sera pas éternelle, ça va changer. Je ne sais pas si ça va aller dans une autre direction, ou si ça va continuer la tradition classique. Je pense que oui, parce qu'il est très raciné à Cuba, la tradition de la danse classique, pas seulement avec Alicia Alonso, sinon déjà même avant Alicia, il y avait beaucoup de danseuses et de danseurs qui sont passés à Cuba. Donc Cuba, c'est un pays qui connaît la danse. Et je ne sais pas à quoi ça va devenir dans quelques années. Je pense que oui, que ça va continuer, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas l'effacer comme ça dans 10 ans ou 15 ans.
Bien, merci. Donc, on attend de voir, Georgina Ramos.
Bien. Je voudrais aussi faire une petite publicité pour nous, pour l'école, de l'école du CCN, parce que nous, on fait un stage, les stages de Castanacette, que ça passe du 11 au 16 février. Normalement, on va avoir un spectacle de clôture à la fin de cet stage. On va danser Castanacette. Bon, s'il y a des enfants qui font la danse classique, Et dans ces caractères, si vous voulez contacter, vous pouvez contacter à l'école pour passer cet stage si ça les intéresse.
Merci Georgina Ramos.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Como esta casa no tiene cimiento, tiene el sistema que he inventado yo. Me la sostienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios. Vengo a decirle cuál es el motivo de hacer esa casa en el aire, la única forma de vivir tranquilo, porque ese camino ninguno lo sabe, porque si no vuelve. sube.
A ver a la luz de la nube.
Porque si no vuela, no llega ya.
A ver a la luz de la inmensidad.
Voy a hacer mi casa en el aire.